VOA Afrique. Bienvenue à vous, le thème de cette semaine, les journalistes en danger. Quel que soit le continent où ils exercent, le métier de journaliste n'est pas sans risque. Dans son bilan 2015, Reporters sans frontières annonce 110 journalistes tués, dont au moins 67 dans l'exercice ou en raison de leur fonction. Comment faire face aux différentes menaces? Les journalistes peuvent-ils être mieux protégés? On en parle tout de suite dans Washington Forum. Journalistes en danger, les arrestations, les censures, les kidnappings, des menaces parfois fatales pour certains de nos confrères et consoeurs. De la Syrie au Nigeria, les terroristes éliminent ceux qui veulent rapporter l'information. De l'Érythrée au Burundi, des régimes musellent la presse. Y a-t-il des limites pour exercer ce métier? Comment protéger les journalistes locaux ou étrangers? Éléments de réponse dans ce Washington Forum.
Washington Forum.
Le Moyen-Orient figure comme la zone la plus meurtrière. C'est également là que le risque d'enlèvement et de prise d'otages est le plus élevé, comme vous pouvez le voir avec les chiffres qui vont apparaître derrière moi. Le Sud-Soudan est le premier pays africain du macabre classement. À cela, il faut ajouter les journalistes qui sont emprisonnés ou encore ceux qui sont en exil. On fait le tour de la question en images avec Bagassi Koura.
2015, une autre année meurtrière pour les journalistes dans le monde. Selon le rapport annuel de Reporters sans frontières, 110 ont été tués, dont 67 dans l'exercice de leurs fonctions ou directement visés. Le Moyen-Orient reste la zone la plus meurtrière pour les hommes de médias. Plus d'un quart des journalistes morts sur le terrain ont été tués en Irak, en Syrie et au Yémen. Dans ces pays, le risque d'enlèvement et de prise d'otage est le plus élevé. 49 des 54 journalistes pris en otage en 2015 l'ont été dans cette partie du monde. La France occupe la troisième place du nombre de journalistes tués en raison de l'attaque contre Charlie Hebdo en janvier 2015 et qui a fait 8 morts. En Afrique, 12 journalistes ont été tués en 2015 dans l'exercice de leurs fonctions, soit 3 de plus qu'en 2014. À cela, il faut ajouter 5 autres journalistes qui ont trouvé la mort sur le continent sans qu'on puisse établir de lien direct entre leur décès et leur profession.
Une grave atteinte à la liberté de la presse persiste dans les pays comme l'Éthiopie, la Somalie, la République démocratique du Congo et la Gambie. Il y a aussi une évolution inquiétante ou un recul dans des pays qui sont relativement démocratiques.
Le Soudan du Sud, plongé dans la guerre civile depuis 2 ans, occupe la triste première place du classement des pays africains. 6 journalistes y ont été tués. La Somalie n'est pas en reste avec 2 morts, tout comme la RDC. Au Kenya, un journaliste a trouvé la mort et un autre au Mozambique. Que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, les crimes commis contre les journalistes restent souvent impunis. Les avancées sur la protection des médias restent encore timides.
Et sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir le journaliste français Nicolas Hénin. Vous connaissez bien le Moyen-Orient, l'Irak, le Yémen que vous avez couvert et aussi la Syrie, pays où vous avez été enlevé en juin 2013 et libéré en avril 2014. Vous allez être avec nous tout au long de cette émission. On commence cet entretien avec cette première question. Nicolas, si vous le voulez bien, on va revenir un petit peu en arrière. Au moment de votre enlèvement, est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer ?
Au moment de l'enlèvement, bien sûr, oui, parce que un enlèvement, c'est caricatural. Vous avez déjà vu un film avec un enlèvement de dents ? Et ben, ça se passe exactement comme ça. C'est juste une voiture qui s'arrête, des gens qui en sortent avec des masques, des armes, plouf, ils vous attrapent. En 10 secondes, vous êtes à l'arrière, menotté, et voilà, emporté. Vous réalisez évidemment, immédiatement ce qui se passe.
Mais comment ça se passe? Est-ce que c'est en début de journée, en milieu de journée?
Ça peut être n'importe quand.
Vous aviez reçu des intimidations ou des menaces?
Là, il se trouve que ça a été en pleine journée, mais ça peut arriver n'importe quand. C'est en pleine journée, en pleine rue. Mais ça peut arriver n'importe quand.
Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, quand justement on est enfermé dans une voiture avec des inconnus? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quelle est la première chose qui vous passe par la tête?
Qu'on est dans un sérieux problème.
Vous avez couvert des terrains difficiles en Afrique, au Moyen-Orient. Est-ce que vous avez, pour la Syrie, étant donné qu'on savait déjà que la situation était très difficile, d'autres journalistes avaient déjà été enlevés, est-ce que vous aviez eu une préparation particulière? Est-ce que vous avez fait des choses que vous ne faisiez pas pour d'autres terrains?
Oui, je faisais assez attention. Sauf qu'il y a eu, sur le cas de la Syrie, un point très particulier qui est le point des blackouts. Donc la plupart des enlèvements qui avaient eu lieu au moment de mon enlèvement étaient restés sous embargo de la part soit des autorités, soit des familles des personnes concernées. Donc il y avait eu, de fait, au moment où moi je me fais attraper, une véritable campagne de chasse qui avait été lancée, qui avait été initiée, et dont j'étais largement ignorant, puisque la plupart des enlèvements qui avaient précédé le mien étaient restés secrets.
Est-ce que
et c'est seulement avec plusieurs mois de retard que les confrères ont fini par se dire « Ah oui, flûte, on commence à avoir une douzaine de personnes enlevées. Là, c'est peut-être qu'il y a un vrai problème et un vrai risque. »
Est-ce que vous pensez que cette information aurait dû circuler justement pour éviter qu'il y ait d'autres journalistes sur le terrain qui soient en danger de cette façon ?
Je suis régulièrement en contact avec des ONG de protection des journalistes et on essaye de trouver des mécanismes qui permettent de sonner l'alarme, de faire circuler l'information de sécurité pour prévenir s'il y a un danger, tout en gardant la confidentialité des cas individuels que peuvent souhaiter les familles ou les autorités ou les employeurs.
Alors vous êtes enlevé avec votre collègue.
En fait, lui se fait enlever quelques heures plus tard.
Lui se fait enlever quelques heures plus tard. On sait, ça a été rendu public, que durant votre détention, vous étiez en compagnie de James Foley. On ne peut pas ne pas parler de lui aujourd'hui et plusieurs autres journalistes, effectivement. Aux États-Unis, il y a eu la sortie du documentaire le 6 février qui lui est consacré. Est-ce que vous avez vu ce documentaire d'abord ?
Pas encore. Si jamais HBO regarde VOA, s'il vous plaît, envoyez-moi une copie. Je suis dedans. Je pense que ça serait sympa de me l'envoyer. Donc, je ne l'ai pas encore vu.
Est-ce que pour vous, c'est une façon comme une autre de pouvoir dire à ces meurtriers, à ces assassins, que la vie continue et qu'ils n'ont pas gagné ?
De toute façon, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont, ils n'ont plus rien comme monnaie d'échange. Ils n'ont plus de carte en main. Puis je suis en vie et puis j'ai retrouvé ma liberté de parole. J'écris des bouquins, j'explique au monde entier comment il faut faire pour les combattre. Je tiens un discours qui leur déplaît fondamentalement parce que je ne suis pas particulièrement va-t-en-guerre, alors qu'eux souhaitent au contraire une escalade des violences, donc ils n'ont pas gagné.
Est-ce que c'est ce que vous expliquez dans votre livre « Jihad Academy » qui vient de sortir aussi aux États-Unis ? Il est déjà sorti en français et il vient de sortir aux États-Unis en ce moment. Est-ce que c'est ce que vous expliquez, la vie...
C'est vraiment le principe de ce livre, c'est d'expliquer la réalité de qui est ce groupe terroriste. Parce qu'on a une image extrêmement faussée de ce groupe. Et pour cause, il nous fait peur. Ils cherchent à nous faire perdre nos moyens, à nous faire perdre notre discernement. C'est le job des terroristes, en fait. C'est leur boulot. Il faut être naïf pour penser que l'objectif d'un terroriste, c'est de tuer. Non, l'objectif d'un assassin, c'est de tuer. L'objectif d'un terroriste, c'est de terroriser. Il va tuer.
Justement.
Mais le succès, ce n'est pas le meurtre. C'est la réaction au meurtre. C'est la peur que son meurtre va susciter.
Alors
dans
justement,
la société qu'il vise.
Dis-moi, aux mains de l'État islamique, je pense que personne, à part ceux qui ont vécu ces moments-là, ne peuvent imaginer, comment se passe, entre guillemets, le quotidien quand on est enfermé avec d'autres de ses confrères et avec des geôliers ? Comment ça se passe ?
On s'ennuie beaucoup. On n'a absolument rien à faire. Donc on discute entre détenus. On parle d'un peu tout.
Mais à quoi ça ressemble ? Vous êtes enfermé dans des maisons
On est enfermé, on se retrouve jusqu'à une vingtaine ensemble, avec un mètre carré par personne, et voilà quoi. Et
vous étiez combien dans la pièce
Au début, j'ai commencé tout seul, j'ai fini à une vingtaine.
Et dans la vingtaine, il y avait James Foley ?
Il y avait quatre Américains, trois Anglais, on était quatre Français, on était une petite bande internationale.
On lit dans une interview que vous avez fini par mettre votre couchage à côté du sien.
On a eu un moment de grande proximité. Bah, en fait, on n'a pas eu le choix. Pour éviter qu'on s'évade, il nous avait menottés deux par deux. Donc à partir du moment où je me suis retrouvé avec une menotte attachée au poignet de James Foley, évidemment, nous dormions côte à côte, oui.
Comment vous avez essayé de vous évader première fois ?
Une fois, ça m'a suffi.
Comment ça s'est passé ?
Quand je suis... dès qu'ils m'ont mis dans ma première cellule, je me rends compte qu'il y a une fenêtre avec des barreaux qui n'ont pas l'air très très solides. Le problème, c'est que cette fenêtre est haute. Mais mes geôliers, dans leur naïveté, on va dire, m'ont fourni les deux outils dont j'avais absolument besoin pour m'échapper, à savoir une chaise qui m'a permis d'atteindre la fenêtre et un balai de chiottes qui m'a permis de faire levier de façon à faire sauter les barreaux. Donc le soir du troisième jour, j'ai fait sauter les barreaux, je suis sauté dans le désert, j'ai couru toute la nuit et puis au petit jour, je suis tombé sur deux djihadistes en pyjama. Je n'ai pas pu les reconnaître parce qu'ils étaient en pyjama et ils m'ont rattrapé, ils m'ont ramené dans la même cellule.
Et à ce moment-là, est-ce que vous avez subi des mauvais traitements, une punition parce que justement
contents,
vous aviez...
Oui, ça, j'étais pas contre.
Est-ce que c'était fréquent, les coups Est-ce qu'il y a une violence physique sur les otages?
Il y a eu, avec de grosses différences selon les périodes et puis aussi les geôliers. Et aussi, marginalement aussi, les otages. Il est notoriété publique que certains d'entre nous ont été très, très durement torturés pendant un certain temps.
Il y a des réactions dans notre rédaction. Par exemple, Idrissa qui vous demande directement à vous, comment est-ce que vous avez été libéré ?
Je vais pas être naïf. Je pense avoir été échangé contre quelque chose. Je pense pas que mes geôliers m'aient fait sortir pour mes beaux yeux. Après, contre quoi j'ai été échangé, j'en ai aucune idée. La seule chose que je sais pour sûr, c'est ce que le président François Hollande m'a dit sur les images qu'on va voir là quand je suis en train de lui parler. Quand je suis arrivé à Villacoublay, descendu de cet hélicoptère, il m'a dit « Le gouvernement français n'a rien payé ». C'est tout ce que je sais.
Et vous l'avez cru ?
Oui.
Justement, la autre question d'un autre de nos confrères, il demandait comment est-ce que vous avez vécu le moment où vous recouvrez votre liberté, vous pouvez retrouver vos enfants, vous pouvez retrouver votre épouse et tout ça.
Et je laisse les copains derrière, c'est très pénible. Et c'est très spécifique d'ailleurs à cette prise d'otage. Normalement, une prise d'otage, le jour où on est libéré, on est libre, c'est bon, c'est fini. Moi, je laissais une quinzaine de copains derrière. Et ça, c'est particulièrement difficile. Et quand ses copains ont commencé à se faire exécuter, ça l'a été encore plus.
Justement, ça a été quoi le jour où vous vous réveillez et vous apprenez que James Foley, avec lequel vous avez été menotté pendant plusieurs mois...
Ça a été extrêmement difficile.
Quel est votre sentiment à ce moment-là ?
Beaucoup de rage. Une vraie rage. Parce que je ne m'y attendais pas. Et d'ailleurs, c'est l'un des moments où j'ai commencé à sentir que j'avais besoin de prendre position. Et c'est dans la foulée de ce meurtre que l'envie d'écrire sur cette région et sur ce groupe terroriste m'est venue. Parce que j'ai eu le sentiment qu'il fallait... Je ne pouvais plus rester passif. Il fallait que je prenne position.
Est-ce que le fait de pouvoir aussi échanger avec d'autres confrères, notamment des futurs confrères, je sais que vous intervenez dans des écoles de journalisme, est-ce que c'est une façon, entre guillemets, d'exorciser ça aussi ?
Moi, je parle à tout le monde. Je rencontre plein de gens. Je bénéficie d'une petite notoriété aujourd'hui, ce qui est assez sympathique. Et j'essaye... Et je suis assez partageur aussi. Donc, je vais... Je vais dans beaucoup d'endroits où on m'invite. Je ne peux malheureusement pas répondre positivement à toutes les propositions, mais j'essaye de vraiment échanger, présenter mes visions et du boulot et de la région et échanger sur la base de mon expérience.
Dernière question que beaucoup se sont posées. On sait que vous êtes père de famille. Qu'est-ce qui vous a fait tenir le coup pendant 10 mois ?
Vous me tendez le bâton pour la, à la fois pour me m'orienter ma réponse et puis aussi pour me battre. Évidemment que mes enfants ont été une motivation pour survivre et aussi la source d'une douleur intense parce que je ne pouvais pas penser à eux sans avoir l'estomac qui se nouait.
Aujourd'hui, si des jeunes journalistes veulent couvrir ces zones qui sont quasi inaccessibles aujourd'hui, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Quels sont les conseils pour les jeunes générations ou d'autres confrères?
Il y a malheureusement des zones qui sont pratiquement inaccessibles. Il y a des zones, notamment de Syrie, dans lesquelles personne ne peut vous garantir sérieusement votre sécurité si vous êtes un journaliste occidental. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut être imaginatif pour malgré tout faire sortir de l'information. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs, et c'est l'autre crime de mes ravisseurs. Mes ravisseurs n'ont pas seulement commis comme crime nos enlèvements, les exécutions d'otages, ils ont aussi vidé de larges pans du territoire syrien de tout témoin, qu'il soit humanitaire ou journaliste.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après une courte pause, toujours avec Nicolas Hénin.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par deux autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
De retour dans ce Washington Forum consacré aux journalistes en danger, avec un regard particulier cette fois sur l'Afrique. En dehors des journalistes tués sur le continent, comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y a aussi ceux qui sont emprisonnés. Par exemple, en Libye, plusieurs journalistes au moins cinq journalistes sont emprisonnés à l'heure actuelle. Et on va prendre maintenant la direction du Rwanda. Notre correspondant Maurice Magoran est allé à la rencontre des journalistes burundais exilés à Kigali. Depuis le début de la crise burundaise, la plupart des médias indépendants ont été détruits ou contraints de fermer. Le fin janvier, à Bujumbura, deux journalistes de médias internationaux avaient, eux, été arrêtés puis relâchés grâce à la pression internationale. Mais entre clandestinité et exil, tous ne sont pas aussi chanceux. C'est un récit de Salwa Jafari.
18 mai 2015, Jean-Baptiste Biréa participait à un rallye du leader politique Zedi Ferouzi quand un commando ouvre le feu sur la foule. L'opposant et son garde du corps sont tués. Le journaliste reçoit lui une balle au thorax.
Et puis j'étais évacué à l'hôpital de Wakale, c'était à Bujumbura. Là aussi, j'ai été poursuivi par certains éléments de la police. Et c'est d'après les informations qu'on a recueillies auprès des infirmiers. J'ai pas pu me faire soigner. On m'a déplacé d'une maison à une autre. Mais là, toujours là, j'étais encore poursuivi. Et puis, au niveau de la famille, au niveau des organisations humanitaires, ici, je fais allusion à la ProDH. Ils ont essayé de faire tous les moyens pour que je puisse être évacué.
Depuis le début de la crise burundaise, la plupart des médias indépendants ont été détruits ou contraints de fermer. Les journalistes n'ayant pas fui le pays malgré les menaces vivent dans la clandestinité. Innocent Mouhozi a fui de justesse. C'est sur les ondes de sa radio que les putschistes ont fait leur première déclaration. Elle a été brûlée par la suite par les proches du pouvoir.
Tant bien que mal au Burundi, on n'arrive presque plus à travailler parce que tout est interdit. À l'extérieur, les gens travaillent, il y a des initiatives sur le web. Les informations circulent tant bien que mal, de manière limitée, c'est vrai. Mais nous continuons à travailler jusqu'à ce qu'on trouve une formule qui permette aux Burundais à nouveau de jouir de leur droit à l'information. Nous n'allons pas lâcher quoi qu'il arrive.
Ne pas baisser les bras quoi qu'il arrive, c'est ce qui a poussé ce groupe de journalistes burundais à créer une nouvelle radio web, Radio Izamba.
Vous savez, au Burundi comme ailleurs, partout où il y a des assassins, ils veulent pouvoir tuer à huis clos, sans qu'il y ait des projecteurs qui soient braqués sur eux. Parce que les gens qui commettent ce genre d'actes savent très bien que ils auront du mal à continuer à le faire si les projecteurs du monde entier sont braqués sur eux, si les gens les voient. C'est pour ça que les voleurs se cachent derrière la nuit. Et les gens qui sont en train de tuer, qui sont en train de voler, qui sont en train de violer, ont horreur qu'ils soient mis sous les projecteurs.
Vous savez, les journalistes burundais constituent un des piliers de la démocratie burundaise, mais aussi une force incontournable au niveau de la société burundaise, au niveau de la société civile burundaise. Je pense que les journalistes burundais ont donné un plus à cette démocratie et par là, je fais allusion à des séries de reportages, des émissions, débats qui ont été organisées dans les différentes radios qui ont été malheureusement détruites.
Selon l'Union burundaise des journalistes, depuis le début de la crise, plus de 80 hommes des médias burundais ont été jetés sur les routes de l'exil.
Et nous a rejoint sur ce plateau Ellie Smith, journaliste et ancien patron de la chaîne MNTV au Congo-Brazzaville. Messieurs, une première réaction à ce reportage. Ellie, je vous en prie.
Oui, ben, c'est triste parce que c'est une réalité que nous avions vécue et puis ça fait mal que ça se répète et puis c'est comme s'il n'y a pas d'avenir.
Au Burundi, à l'heure actuelle, quasiment personne ne sait ce qui se passe au quotidien.
Exactement. Malheureusement, le gouvernement de la sous-région soutient le gouvernement du Burundi et puis aussi les gouvernements occidentaux. Il y a une petite prétention qu'on le fait, mais personne ne soutient les journalistes au Burundi, donc personne ne sait ce qui se passe. Mais peut-être, Reporters sans frontières et puis Committee to Protect Journalists, donc ils sont en train de les aider.
Nicolas Hénin, vous disiez tout à l'heure en fin de première partie qu'il y a des zones où aujourd'hui les journalistes occidentaux n'ont plus accès. Est-ce que, avec l'arrestation de Jean-Philippe Rémy qu'on a pu voir fin janvier, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous, par exemple, vous iriez au Burundi ou vous tenteriez aujourd'hui ou vous pensez que c'est
complètement... Il faut, bien sûr. Il faut. Après, il y a des pays dans lesquels, y compris en Afrique, on est rentré clandestinement. Enfin, moi, je me souviens d'être rentré clandestinement au Zimbabwe ou en Libye. Donc oui, quand un gouvernement ne souhaite pas laisser aux journalistes l'accès à leur pays, eh bien, il faut un peu forcer l'entrée.
Ellie Smith, vous êtes connue parmi les confrères africains et au-delà même parce que vous avez été patron d'une télévision au Congo-Brazzaville qui a été fermée. Suite à cette fermeture, vous avez été expulsé du pays. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cet épisode dramatique?
Oui, le paradoxe, c'est que c'est une chaîne de télévision qui appartient au grand frère du président Denis Sassou Nguesso. Le problème est qu'ils n'ont pas voulu que je puisse, qu'on donne l'information comme il se doit, ce qu'ils veulent, parce qu'au Congo, toutes les chaînes qui existent, c'est soit pour le grand frère du président de la République, sa fille, son neveu.
Qui vous était reproché?
Il m'était reproché simplement parce que j'avais permis que des membres de la société civile et de l'opposition puissent s'exprimer. Ils ne veulent pas qu'autre voix puisse s'exprimer tout. C'est que ça doit être à la gloire du président Denis Sassou Nguesso, un point, un trait, et qu'on doit changer la constitution. Voilà ce qui m'a été reproché.
Donc, vous êtes expulsé du pays. Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous a gentiment raccompagné à l'aéroport? Et tout s'est passé calmement?
Non, avant d'être expulsé, il y a le 7, ils m'ont envoyé un SMS qu'ils vont me tuer. Et le 10, ils sont venus chez moi, ils ont violé ma petite sœur. Le lendemain, j'ai fait une intervention sur RFI où j'ai dit, je ne sais pas, que je ne me reproche de rien, il faut une enquête sur ce qui s'est passé, parce que c'était quand même drôle. Les gens qui sont chez toi, ils sont en train de parler au téléphone, ils parlaient en lingala, donc ils prenaient un peu les instructions et ils m'ont dit, non, on ne va pas te tuer, on fera que vous n'allez pas oublier ce qui s'est passé avec toi et tu vas rencontrer aux autres.
Est-ce qu'il y a eu une enquête depuis?
Il n'y a jamais eu d'enquête. On a fait un simulacre d'arrestation. Ce sont des policiers eux-mêmes, dirigés par le général Jean-François Ndengue. C'est lui qui organise tout ce qui se passe au Congo. Et toutes ces personnes ont été libérées aujourd'hui. Ils sont toujours en activité.
Alors justement, des élections présidentielles devraient avoir lieu le 20 mars. Comment est-ce que vous voyez cette couverture des élections pour vos confrères? Est-ce que finalement, toutes les télés vont devoir être... de répondre uniquement aux ordres de la présidence, comme vous le dites?
Exactement. Si vous ne répondrez pas aux ordres de la présidence, vous aurez des problèmes. D'ailleurs, même, j'ai un confrère qui a été sauvagement battu il y a jeudi. Il s'appelle Alphonse Ndongo. Son seul crime, c'est qu'il était à l'aéroport pour faire un reportage de l'arrivée du général Jean-Marie Michel Moukoko. Il a été battu, il a eu une dent cassée. Et toutes les télévisions qui existent aujourd'hui...
Le général Moukoko qui se présente aux élections et qui est un opposant direct du président Sassou Nguesso. Hein,
exactement. Là-bas, c'est un peu comme la Corée du Nord. C'est une certaine propagande qui existe. Si vous n'êtes pas pour Denis Sassou Nguesso, vous n'avez pas droit au chapitre.
Je vous propose maintenant d'écouter ce témoignage de notre confrère Ibrahim Ahmed du service Haoussa de la VOA qui couvre le Nigeria, parce qu'en Afrique, il n'est pas seulement question de régime autoritaire, il est aussi question de terrorisme. Écoutez-le.
Prenons l'exemple de ce qui s'est passé au Nigeria. On a toujours ces problèmes de corruption qui est si ancré au Nigeria. Aborder ces problèmes est aussi extrêmement dangereux. Vous savez, plusieurs personnes, plusieurs journalistes au Nigeria ont perdu leur vie en enquêtant sur ces problèmes de corruption. Beaucoup de journalistes sont aussi en prison à cause de cette question de corruption. Travailler avec les gouvernements sur ces sujets est dangereux. Mais la question du terrorisme présente une nouvelle dimension, particulièrement dans cette région de l'Afrique. C'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué. On a des problèmes au Nigeria. Vous savez, ici, nous avons les militantismes du delta du Niger. J'étais dans la zone du delta du Niger. Je suis allé jusqu'au camp là-bas, au milieu de nulle part. Mais je n'avais pas peur parce que ces gars, au moins, ils poursuivent quelque chose. Ils ont un but, mais avec Boko Haram, ils ne font que tuer, tuer, tuer.
Boko Haram people, it's just kill, kill and kill.
Nicolas, vous avez également couvert le Soudan du Sud, la Somalie. L'Afrique a aussi affaire au terrorisme aujourd'hui. Est-ce que, par rapport aux années où vous avez couvert l'Afrique, est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce plus dur aujourd'hui du fait qu'il y ait du terrorisme en Afrique?
Le terrorisme rajoute évidemment une couche de difficultés, mais je pense pas que ce soit nécessairement la principale cause. Le principal danger pour les journalistes, c'est soit de se faire assassiner, soit de se faire enlever. On a évidemment du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. C'est un phénomène relativement récent. Boko Haram l'est un petit peu moins, et le delta du Niger l'est encore moins. Évidemment, tout cela, ça rajoute des difficultés.
Vous avez été nombreux à réagir sur ce sujet. Voici quelques-unes de vos réactions sur Facebook. Amo Beoano à Abidjan, la liberté de presse est fondamentale à la démocratie et à la liberté. C'est pourquoi, même s'il y a une limite à toute responsabilité, les journalistes s'imposent d'aller au-delà des limites pour faire leur métier avec tous les risques que cela comporte. Njoje Socrate à Tanganyika en RDC, les médias sont fermés sans motif valable à cause de la diffusion des messages ou interviews des opposants, voire même les émissions très importantes qui peuvent aider la population à bien comprendre le pouvoir en place sont fermées. Autre exemple, Niall Boll, qui avait lancé le premier quotidien indépendant du Soudan du Sud, a renoncé à cause des menaces et des intimidations qui pesaient sur lui. Et ce chiffre, pour finir, 97% des journalistes arrêtés ou sciemment visés sur le terrain sont des journalistes locaux. Ce sont eux qui payent souvent le prix fort et ils sont plus vulnérables et les crimes contre eux restent en majorité impunis. Et le Washington Forum de la semaine prochaine sera consacré aux élections présidentielles au Niger, des élections auxquelles va assister notre envoyé spécial Nicolas Pineau.
Et oui, bonjour Tatiana, depuis Niamey, la capitale du Niger, où je me trouve pour ce scrutin du 21 février prochain. Vous l'imaginez ici, l'effervescence de la campagne électorale. Qui va pouvoir remporter ce scrutin? Un favori, bien évidemment, le président sortant, Mahamadou Issoufou, qui annonce une victoire par KO dès le premier tour. Mais attendons, puisque 14 autres candidats espèrent pouvoir remporter ce scrutin, et notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou, qui, vous le savez, mène une drôle de campagne, puisqu'il est emprisonné. Nous allons suivre, évidemment, les résultats, les analyses, les commentaires. Nous allons vous donner toutes les cartes pour comprendre ce vote. Ce sera évidemment sur voaafrique.com, la télé, la radio et sur Internet, sans oublier notre page Facebook. On vous donne évidemment rendez-vous à très vite sur voaafrique.com. C'était Nicolas Pineau depuis Niamey pour Washington Forum.
Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à nos invités de nous avoir suivis. Je vous rappelle Jihad Academy, le livre de Nicolas Hénin qui vient de paraître aux États-Unis. Merci à vous tous et à très bientôt.